9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Salam alaikum mes amis, je suis ravi de vous retrouver et durant cette petite heure que nous allons passer ensemble, Maître Serhan va tenter de répondre à vos questions d'ordre juridique. Quel type de questions me direz-vous? Eh bien, ce que vous voulez, je sais pas, moi, tiens, au hasard. Hein, ta femme te saoule. Question, comment m'en séparer? J'aurais presque envie de te dire, fallait pas commettre cette erreur fatale de te marier, camarade. Mais puisque c'est fait, alors sache qu'il existe plusieurs types de procédures de divorce. Tu peux également te remettre en question, bonhomme. Car aussi curieux que cela paraisse, sache que les femmes ne sont pas toujours responsables. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. L'homme peut être également très pénible. Bon là, en fait, j'étais obligé, mon cher Philippe, de rajouter ça, car Maître Serhan est aussi un homme marié. Et je sais que Madame Serhan est aujourd'hui à l'écoute de cette émission.
Ah, qu'est-ce qui se passe?
Spéciale dédicace. Elle avait envie de m'écouter, donc j'ai dû rectifier hier soir la petite...
Coucou Madame Serhan.
Eh oui, voilà, que je salue et que j'embrasse.
Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle vienne à l'émission,
Madame Serhan. Là, vous écoute, donc
avec tous les dos qu'on a...
Ah ouais, on en est là.
Les dossiers, ouais.
D'accord. Mais bon,
pas plus tard que ce matin, il y a un nouveau dossier qui s'est rajouté, Madame Serhan.
Donc l'invitation est lancée, en tout cas. C'est ce que vous essayez de faire comprendre. Autre problème, auditeur, auquel tu peux être confronté, ton voisin passe son temps à mettre la musique à fond au point de te rendre fou. Eh bien, sache que tu peux faire cesser cette nuisance. Ben oui, deux options s'offrent à toi, au choix. Soit en décidant de lui briser la nuque, par exemple, méthode quelque peu radicale, mon cher Philippe, je le reconnais, mais néanmoins efficace. Tu as aussi la possibilité de saisir un tribunal qui condamnera ce mélomane. Bref, il y a une réponse juridique à toutes les difficultés que tu peux rencontrer. C'est pour cela que cette émission existe. Non, la seule réponse que je n'ai pas, mais qui n'est pas d'ordre juridique, c'est celle qui concerne cette femme que je n'arrive pas à sonder. C'est le pendant féminin de Zemmour. C'est une personne qui tente maladroitement d'effacer son identité, qui aurait probablement secrètement aimé se prénommer Stéphanie ou Jacqueline. Alors, je te laisse deviner de qui il s'agit. Allez, j'écoute. Qui a la réponse si je te dis qu'il s'agit d'une femme qui parle essentiellement avec son nez? On appelle chez nous les Roniyat. Et oui, je veux parler de demoiselle Zineb El Razoui. Mais je n'ai bien évidemment rien de personnel contre Madame El Razoui. Je suis toujours inquiet quand on déclare que les policiers devraient tirer à balles réelles sur des manifestants quand même. Zineb, oh, je me permets de te tutoyer car chez nous le vouvoiement n'a pas lieu d'être. Quand même, t'imagines-toi, même les types de l'extrême droite n'ont pas osé dire une telle bêtise. Il serait bon, mon cher Philippe, peut-être que cette radio invite cette femme. J'aurais tellement de questions à lui poser.
Elle va pas plutôt sur C8 ou sur... Non.
Mais... On peut aussi l'inviter ici. Voilà, j'aimerais comprendre son mal-être. Alors, en attendant que vous puissiez éventuellement organiser une telle rencontre, je vais demander à nos auditeurs d'appeler le 01 53 48 3000 afin qu'ils posent leur fameuse question. Émission sous le contrôle du chef d'orchestre, M. Philippe Robichon. À vous, maestro.
Bien, Maître Serhan très en forme. Bon, comme Madame Serhan écoute aujourd'hui, on va faire une émission beaucoup plus calme que d'habitude, Madame Serhan. Hein. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est qu'une pâle copie de ce qui se passe quand vous l'écoutez pas.
Reflet des autres émissions. On est d'accord.
Bien, on va commencer cette émission par justement une question. Vous parlez de terrain, mais par un cas que vous avez traité récemment. Hein, c'est un de vos clients, Maître Serhan.
Absolument.
Voilà, qui est venu vous voir. Et il a été licencié, lui, parce qu'il a été... alors, je ne sais pas si on dit pris en flagrant délit, si est-ce que quelqu'un l'a vu. En tout cas, en train de faire sa prière sur son lieu de travail, il a été licencié.
Alors, il a été licencié. En tout cas, on lui a notifié son licenciement. Les faits sont simples. Hein. On est dans une société privée. Donc, encore une fois, le principe de neutralité s'applique dans les sociétés publiques ou dans les sociétés qui sont chargées de ce qu'on appelle un service public. Donc, en gros, des sociétés qui bossent également pour l'État. En dehors de ça, il y a une liberté religieuse et liberté de pouvoir pratiquer sa religion. Donc l'intéressé est au sein donc d'une grosse société. Il est pris entre guillemets en flagrant délit de prière une première fois. Donc il a fait l'objet d'un avertissement. Ça n'a pas été plus loin. Et ensuite il a été pris en flagrant délit de prière une seconde fois. Et cette fois-ci, donc le patron de la boîte n'a pas pardonné et donc lui a notifié le licenciement. Alors quelles sont les règles en la matière? Il faut savoir d'abord que par principe, il n'est pas, encore une fois, interdit de prier. Oui.
C'est une question, moi.
Justement. Ouais, bien sûr, bien sûr.
Si vous avez un règlement intérieur dans l'entreprise, hein, par exemple, qui le stipule.
C'est toute la difficulté. Et aujourd'hui, la plupart des sociétés, mais pas que des grands groupes, hein, même maintenant les petites et les moyennes sociétés procèdent de la sorte, c'est-à-dire qu'ils rajoutent une disposition dans leur règlement intérieur. Alors, c'est terrible parce que c'est une manière de contourner la loi. On a un principe de liberté en la matière, mais c'est une liberté qui est de plus en plus restrictive. Et à partir du moment où, dans le règlement intérieur, il est indiqué que les pratiques religieuses. Alors, évidemment, on se cache sur le principe qui consiste à dire, mais toutes les religions sont concernées. Bon, on n'est pas dupes, on n'est pas fous, on sait que la religion qui, entre guillemets, est mise en avant depuis quelque temps et de plus en plus, c'est la religion musulmane. Mais la règle et le principe, pour pas qu'il y ait de discrimination, c'est que toutes les religions sont concernées. Et effectivement, quand ça apparaît sur le règlement intérieur, si vous êtes pris, entre guillemets, non pas la main dans le sac, mais la tête sur le tapis, eh ben, à partir de ce moment-là, vous pouvez être sanctionné. En l'occurrence, là, pour mon client, dans le règlement intérieur, il n'y avait rien. C'est-à-dire que même quand il n'y a rien.
C'était même pas spécifié dans le règlement intérieur.
C'est pas spécifié dans le règlement intérieur. Pour autant, c'est pas parce que ce n'est pas spécifié dans le règlement intérieur que vous pouvez vous permettre, entre guillemets, tout et n'importe quoi. D'abord, il faut savoir que si vous avez cette volonté de prier, ça ne peut pas se faire durant vos heures de boulot, ce qu'on peut évidemment comprendre, sauf une demande expresse à votre DRH, à votre patron, et puis vous attendez la réponse expresse de l'intéressé. Mais au-delà de ça, dans votre temps de pause, vous avez la liberté absolue, de fumer, de sortir de la boîte. Et si vous avez envie de prier, vous pouvez le faire. Mais on va vous demander, entre guillemets, une certaine discrétion, pour ne pas dire un certain effacement. C'est toute la difficulté. La difficulté, c'est ça, c'est qu'on ne va pas, en tout cas, je connais pas beaucoup de sociétés qui vont mettre à disposition un local qui serait dédié à la prière. Donc quand c'est comme ça, ben on prie au sein du vestiaire, on prie dans son bureau, mais vous pouvez évidemment être vu et aperçu par X ou Y, et c'est cet aspect-là qui, entre guillemets, peut éventuellement déranger. C'est cet aspect-là, manifestement, dans le dossier de mon client, qui a dérangé la société, et donc l'intéressé a fait l'objet d'un licenciement. Alors c'est un licenciement qui va être contesté. Selon moi, juridiquement, encore une fois, à partir du moment où on n'invoque pas un trouble dans votre manière de travailler ou un trouble au sein de la société, et comme ça n'est pas spécifiquement interdit, j'ai beaucoup d'espoir donc pour que le conseil de prud'homme, évidemment, sanctionne l'employeur. Mais la difficulté, c'est qu'on voit bien que sur un plan purement juridique, c'est de plus en plus verrouillé. Et aujourd'hui, et demain ce sera encore plus flagrant, la plupart des sociétés intègrent une petite disposition de leur règlement intérieur. Alors, vérifiez quand même avant de débarquer avec votre tapis de prière que le règlement intérieur 1 ne vous l'interdit pas. Et puis, quand bien même ce serait pas spécifiquement inscrit sur le règlement intérieur, je crois que la meilleure des options, c'est quand même d'aller voir le responsable de la société et de dire franchement les choses. Il n'y a pas pire que d'être pris, encore une fois, entre guillemets, la main dans le sac. Ça crée toujours une très mauvaise ambiance. Donc prenez quand même l'initiative d'aller voir l'employeur, de discuter avec lui. Après, c'est vrai que quand on tient ce discours-là et quand on me dit « Ouais, mais alors si l'employeur dit non, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est un choix. Alors je ne suis pas un spécialiste de la religion, mais je crois savoir qu'il n'est pas interdit de cumuler toutes les prières et de les faire en fin de journée.
On va poser la question à l'imam tout à l'heure. Là.
Il faudra lui poser la question, mais sauf erreur.
Donc, à l'imam Abdelali qui arrive.
Ouais, qui serait possible et envisageable, et peut-être pour éviter toute tension au sein de votre société, et un risque de licenciement. Parce qu'encore une fois, pour ce client, même si je suis très confiant, c'est une procédure qui va durer longtemps. Donc c'est aussi la difficulté. Donc je crois qu'il est ou qu'il serait possible, sous réserve des confirmations de l'imam, donc de cumuler les prières, de les faire en fin de journée. Si c'est confirmé par l'imam, je crois que ça reste quand même, qu'on le veuille ou non, la meilleure des options pour pouvoir conserver son boulot tranquillement.
Ça se plaide devant quelle juridiction?
Devant le conseil de prud'homme.
Ah, c'est les prud'hommes?
Ah oui, oui.
Bah, en ce moment, les prud'hommes sont super engorgés, donc ça passe dans combien de temps?
C'est toute la difficulté.
Est-ce qu'on peut faire un référé pour ce genre d'affaires?
Non, la matière. Alors, techniquement, on peut faire un référé, mais quand on fait un référé, il faut, comme dit à l'autre, là, qu'on se dise, effectivement, il y a une probabilité importante pour que ça puisse passer. Là, en l'occurrence, ça passera pas en référé. Donc, on est dans le cadre d'une procédure classique. Et une procédure classique, oui, il faut compter quand tout le monde est en forme, quand les renvois sont pas demandés par les avocats des uns et des autres. Et très souvent, mais sur un plan purement stratégique, qui a intérêt à faire traîner la chose, c'est l'employeur. Donc l'avocat de l'employeur, alors c'est de bonne guerre, hein, l'avocat de l'employeur n'hésite pas à solliciter des renvois, donc ça nous fait des délais à rallonge, mais quand ça va vite en matière prud'homale, alors évidemment ça dépend beaucoup des conseils prud'homaux, mais en règle générale, on est sur un an et demi et parfois deux ans, sans évoquer une éventuelle procédure d'appel si l'employeur n'est pas content, ou si on était amenés à contester un licenciement confirmé par le Conseil de Prud'homme. Donc voilà, c'est-à-dire que il faut avoir à l'esprit que c'est un parcours du combattant, c'est un parcours très compliqué, que c'est un parcours qui est très long. Donc rien ne vaut, et moi je considère ça même normal, le dialogue avec l'employeur. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui, parce qu'on pourrait se faire une mauvaise idée. C'est-à-dire, il y a rien qui dit que spontanément l'employeur va pas accepter, et puis encore une fois avec des dispositions particulières. Donc tentez quand même le coup et n'essayez pas comme ça de prier entre guillemets en cachette, parce que si vous êtes pris entre guillemets la main dans le sac, encore une fois, ça peut poser de grosses difficultés.
Bien, 01 53 48 3000, si vous voulez poser vos questions à Maître Serran, on va prendre vos appels, puisque Maître Serran répond aux questions le vendredi en direct. Je rappelle également que vous pouvez appeler Maître Serran sur son téléphone portable, dont le numéro s'affiche.
Absolument.
Et que vous nous rappelez, Maître Serran.
Je vais le rappeler quand même, 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64.
Voilà, vous pouvez également envoyer un mail à Maître Serran, hein.
À maître.serane, serhane, @gmail.com.
Alors, nous avons Sofiane qui est au standard, Maître Serane. Sofiane, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Maître Serane.
Bonjour Sofiane.
J'ai de la chance, j'ai appelé, je vous ai eu.
Ah bah
c'est le principe.
Pas, voilà, non, à jouer non, au loto mais, alors.
Eh bah franchement, non, bon, on va pas abuser quand même, mais j'ai de la chance là.
Allez, vous pouvez. Alors, on y va.
J'ai une question.
Allez-y.
J'ai déposé un dossier de mariage. Le 13 novembre. Et la personne, en fait, avec qui je compte me marier est de nationalité marocaine.
D'accord.
Du coup, à la mairie, ils nous ont dit qu'il y aurait donc on a déposé le dossier, etc. Il y avait une c'était bon. La personne donc, de la mairie a marqué sur le papier qu'il n'y avait pas besoin d'enquête, etc., etc. On a eu une petite audition qui s'est passée très bien, il n'y avait pas de problème. Mais ils nous ont quand même dit qu'ils allaient faire un courrier, un mail au procureur pour avoir un OK.
Ouais. Alors c'est pas spécifique à votre situation, hein, Sofiane, si ça peut vous rassurer. Mais d'abord, madame, alors vous me dites qu'elle est de nationalité marocaine, mais elle est en situation irrégulière?
Alors c'est pas madame, c'est monsieur. Mais,
monsieur?
Oui.
En situation irrégulière.
Monsieur est étudiant depuis le 1er octobre.
Ouais.
Mais il était venu avec un visa touristique.
Ouais, voilà. Bon, donc on considère effectivement, juridiquement parlant, qu'il n'est pas carré. C'est-à-dire que si je viens avec un visa et qui laisse entendre que je dois retourner au pays, évidemment, si demain j'ai un projet de mariage, le maire va prévenir le procureur de la République. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que le procureur de la République, et c'est de sa compétence, il pourrait s'opposer au mariage. Alors, encore une fois, hein, pourquoi? Bah pour dire, enfin en tout cas en laissant entendre que ce serait un mariage que pour les papiers, que pour régulariser l'intéressé. Il faut savoir que s'il y a une opposition à mariage de la part du procureur de la République, Vous serez bien évidemment informé et vous aurez la possibilité de contester cette opposition à mariage. Je vous le dis tout de suite, la liberté de mariage est un principe qui a été reconnu et lorsque le procureur de la République s'y oppose et si vous étiez amené à contester cette opposition devant le tribunal de grande instance, vous obtiendrez gain de cause. Alors, vous allez perdre un peu de temps, évidemment, mais voilà, la finalité sera là. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de dossiers aujourd'hui où le procureur de la République s'est, entre guillemets, amusé à s'opposer au mariage, parce que systématiquement, il reçoit un coup de gourdin sur la tête par le tribunal de grande instance. Donc, voilà. Donc, on va le prévenir, parce que c'est obligatoire.
D'accord.
Et puis, si effectivement vous recevez rien, c'est qu'il n'y a pas de difficulté. Mais selon moi, vous recevrez rien. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur votre projet de mariage avec l'intéressé.
D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, maître. Merci.
Je vous en prie, bon courage à vous.
Bonne journée.
Au revoir. Merci, Sofiane. Allez, d'autres appels dans un instant. Maître Serran répond à vos questions 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
M-Skeg.
Voilà, 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. Et vous appelez Maître Serran ce matin. Nous avons Dalila qui veut vous parler, Maître Serran. Dalila, bienvenue sur Beurre FM.
Oui.
Alors, bonjour. Baissez votre radio, s'il vous plaît, Dalila. Voilà.
Ça va comme ça ?
C'est très bien, c'est parfait.
Oui, je vous appelle parce que j'ai une question. Je veux faire la nationalité par rapport à mes enfants. Et je me suis renseignée sur Internet. J'ai vu que les conditions, il faut que je réside plus de 20 ans, je pense.
Oui, c'est ça, ouais. Vous avez quel âge, madame ?
J'ai 31 ans.
Alors, il y a cette possibilité d'obtenir la nationalité française par rapport à vos enfants, mais ça concerne des femmes d'un âge plus élevé. Ce sont des personnes qui, alors de tête, je crois qu'il faut avoir plus de 62 ou 63 ans, avoir effectivement entre 20 et 25 ans de résidence sur le territoire français, que un ou des enfants soient de nationalité française. Mais là, vous me dites, vous avez 31 ans, c'est ça ?
Oui.
Ben vous êtes pas dans cette optique, c'est-à-dire que vous, alors il y a rien qui vous interdit de demander, de déposer un dossier de naturalisation, mais vous n'entrez pas dans ces conditions-là.
D'accord. Moi, je veux pas la faire par rapport au mariage. Je veux la faire autrement. Est-ce que vous pouvez me conseiller quoi ?
C'est-à-dire autrement ? Si c'est autrement, c'est-à-dire que. Encore une fois, à partir du moment où vous êtes vous êtes en France depuis un certain nombre d'années, que vous ne vous êtes pas fait remarquer par les services de police, les services de justice, que vous exercez une activité rémunérée, alors à minima, on va dire là pour que l'administration ne vous embête pas, à minima 1 500 €. Voilà, donc il y a un certain nombre de conditions à réunir. Vous aurez, compte tenu de votre âge, un entretien pour voir si, d'abord si vous maîtrisez la langue, mais pour voir quelles sont vos connaissances sur les institutions du pays. Alors, on vous posera des questions sur le président, l'Assemblée nationale, le Premier ministre, des questions également sur le territoire français, c'est-à-dire de citer des chaînes de montagne. Enfin voilà, on veut savoir si vous connaissez, entre guillemets, l'histoire et la géographie française. C'est pas facile hein, comme épreuve, mais vous aurez un petit lexique, un petit livre pour vous préparer. Mais il faut savoir que moi, France, je donne ma nationalité à qui je veux. C'est-à-dire que on parle en droit d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire que j'aurai le droit, madame, quand bien même je considère que vous remplissez toutes les conditions, un grand nombre de conditions, j'aurai le droit de vous refuser de vous attribuer cette nationalité française. Et vous aurez le droit, bien évidemment et heureusement, de contester ce refus. Mais voilà, en dehors de ça, ou en dehors de ce que vous avez vous-même exclu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de me dire « je vais me marier avec une personne de nationalité française et ensuite ça m'aidera quand même à avoir la nationalité », donc en dehors de ça, vous pouvez déposer votre propre dossier, il n'y a pas de difficulté. Mais vous avez vu, hein, ça va être très long. Et c'est un parcours semé d'embûches. Hein. Il n'y a rien de simple en la matière. Hein.
D'accord.
Mais c'est la seule option pour l'instant. Donc, il faut la tenter. Tout en sachant qu'on peut soit vous le refuser, on peut aussi, il faut que je le dise, on peut ajourner. C'est-à-dire que la préfecture peut dire, écoutez, revenez nous voir dans 2 ans, revenez nous voir dans 3 ans. Ça, on peut également, c'est-à-dire qu'ils disent pas, non, on vous donne pas la nationalité, on vous dit, on va réexaminer votre situation dans 2 ans ou 3 ans. Même chose, vous avez le droit aussi de contester ce qu'on appelle une décision d'ajournement.
D'accord. Quand je vais faire juste du monde, c'est quoi le motif que je dois faire?
C'est pardon?
Je vous ai dit si je vais faire ma demande. C'est quoi le motif que je dois faire sur quand je remplis les formulaires?
Non, alors de toute manière, les formulaires sont disponibles sur internet, hein, donc voilà, vous tapez n'importe quel nom de préfecture, vous aurez le formulaire à télécharger. C'est une demande de naturalisation.
D'accord.
Voilà, mais le formulaire, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller à la préfecture pour aller le récupérer, ça se télécharge et vous aurez une liste infinie de pièces à réunir et à apporter. Et une fois que le dossier est rempli, alors normalement, on prend rendez-vous sur Internet pour déposer le dossier. On sait que les rendez-vous sur Internet, c'est quasi impossible maintenant. Les sites sont toujours saturés. Alors, d'aucuns disent que c'est à cause de l'administration elle-même, mais si vous pouvez pas ou si vous n'arrivez pas à prendre un rendez-vous via Internet, c'est un dossier qu'il faudra envoyer en recommandé à R.
D'accord.
Voilà, Dalila.
Je vais faire ça. Merci, bonne journée, au revoir.
Merci,
au revoir,
Dalila. Alors, on va à Toulouse et c'est Nadir qui est avec nous. Nadir, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour maître, bonjour.
Bonjour Philippe. Nadir.
Bonjour Nadir. À vos auditeurs. Alors, je vous appelle pour un renseignement, s'il vous plaît.
Allez-y.
Je me suis marié il y a pratiquement trois ans de ça. J'ai fait un regroupement familial. Ça a duré 2 ans de procédure. Ma femme, elle est venue ce mois de février de cette année. Elle a eu sa carte résidence, on va dire, au mois de mai, 3-4 mois après. Et là, au mois d'octobre, ma femme, en rentrant à la maison, je la trouve pas, elle s'est barrée. Alors, d'accord. Je voudrais savoir quelle est la procédure à suivre. Et par contre, j'ai oublié de préciser qu'elle a fait une main courante contre moi, soi-disant que voilà, je l'empêchais de vivre. Voilà. Ce motif-là, quoi. Il n'y a pas eu un dépôt de plainte pour violence conjugale ou quoi que ce soit, mais c'était une main courante pour soi-disant que je l'empêchais de vivre, je ne la laissais pas sortir. Ben, plein de blablabla, juste pour soi-disant. Si je dois faire une procédure, qu'elle se protège et qu'elle ne perd pas sa carte de résidence.
Ouais. Par la manière dont vous posez la question, vous laissez sous-entendre que ce mariage, en tout cas du côté de madame, serait un mariage que pour l'obtention de documents administratifs. On est d'accord.
Ben, écoutez, c'est le sentiment que
voilà,
j'ai actuellement.
Ça, voilà, sauf évidemment. Mais c'est pas le cas, si elle peut indiquer que vous avez été violent, que vous l'avez frappé, et dans ce cas-là, ce serait légitime que cette femme décide de vous quitter. Voilà. Mais c'est vrai que quand c'est comme ça, en règle générale, la personne victime de violence, alors de violence réelle, n'hésite pas à déposer une plainte.
Il n'y a pas eu de plainte, il y a juste main courante, soi-disant que j'empêchais de vivre, de sortir, et plein de conneries comme ça. Ben, il y a tellement de choses qui s'est fait raconter.
Ouais.
Voilà, mais jamais, il n'y a jamais eu de violence. D'ailleurs, quand elle est partie, elle n'a pas déposé plainte, elle n'est pas partie voir un médecin parce qu'il n'y a rien eu.
Oui, voilà, ça, c'est parce qu'il n'y avait rien à faire constater.
Exactement.
Donc, alors dans ce cas-là, il n'y a rien évidemment qui vous interdit, en tout cas, il faut même prendre l'initiative de déposer une requête en divorce, donc auprès du tribunal de votre lieu de domicile. Il faut savoir que le seul élément qui serait protecteur dans cette procédure, ce serait que en bout de course, le juge chargé de la procédure dise « Mais attendez, monsieur, madame est partie légitimement parce qu'elle justifie de violence de votre part. » En dehors de ça, c'est-à-dire si c'est pas écrit noir sur blanc en disant que c'est de votre faute, que vous l'avez frappé, éventuellement que vous avez été condamné par un tribunal correctionnel, en dehors de ça, je peux vous assurer que madame devra ramer pour faire croire aux autorités préfectorales qu'elle est partie pour de bonnes raisons, puisque le juge du divorce, s'il ne constate aucune violence de votre part, va considérer que le départ de madame, alors elle a le droit de vous quitter, après c'est comme ça, mais s'il n'y a pas de motif particulier, s'il n'y a pas de raison, ça peut, en tout cas, ça va être difficile pour madame de justifier de sa bonne foi auprès des autorités préfectorales. Mais, alors, ce que font certaines personnes, il n'y a rien qui vous interdirait, alors après vous le faites ou vous le faites pas, mais lorsque moi je vais consulter des dossiers à la préfecture, on voit beaucoup de courriers, alors soit de voisins qui disent tiens j'ai l'impression qu'il y a un mariage bidon, soit du premier concerné, c'est-à-dire que vous-même vous pouvez envoyer un courrier à la préfecture et dire attendez j'ai été entre guillemets trompé, voilà la situation, et votre avocat, puisqu'encore une fois alors évidemment l'avocat est obligatoire dans ce type de procédure, votre avocat en parallèle de votre procédure de divorce informera la préfecture en disant écoutez voilà dans quel à quel stade de la procédure on en est, et c'est seulement lorsque le jugement définitif sera rendu, ce qui peut être long. Vous avez bien compris que stratégiquement, elle a tout intérêt, en tout cas son avocat a tout intérêt à faire traîner quand même la procédure. Mais donc ce n'est qu'en bout de course, ce n'est qu'à la fin de la procédure que vous pourrez, vous, votre avocat, peu importe, transmettre éventuellement votre jugement de divorce à la préfecture en disant ben voilà ce qu'a dit, ce qu'a déclaré, ce qu'a décidé le juge du divorce. En gros, que c'est que c'était un mariage que pour les papiers. Et dans ce cas-là, c'est la préfecture qui prendra la relève et c'est la préfecture donc qui sera éventuellement chargée de faire le nécessaire et d'inviter avec des grands guillemets, puisque ça restera une obligation, en tout cas de demander à madame de restituer sa carte si on considère qu'il y a eu fraude à la loi.
D'accord. Juste une précision, maître, si vous permettez.
Bien sûr.
J'ai appris par quelqu'un de ses proches, hein, si on peut dire ça comme ça, soi-disant, elle est partie voir un psychologue pour monter un dossier, pour soi-disant, voilà, que je l'ai harcelé.
Ouais. Bon, on peut pas lui en vouloir, stratégiquement. Alors voilà, là, c'est le côté cynique de l'avocat, mais il est certain, monsieur, que si cette femme était venue me voir et elle me dit, voilà, je me suis marié que pour des papiers, j'ai pas été violenté, rien du tout. Oui, quand on ne peut pas établir des violences physiques avec des traces concrètes,
jamais.
Voilà.
Jamais.
Non, mais le truc, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut pas l'établir, on va jouer plutôt sur l'aspect psychologique. Donc, elle a tout intérêt à multiplier les rendez-vous avec les spécialistes en la matière pour dire, certes, monsieur l'a pas frappé, physiquement, il n'a pas touché madame, mais psychologiquement, il l'a usé, il l'a fatigué, il l'a tué, enfin, tué psychologiquement, hein. Donc voilà, elle a tout intérêt, effectivement, pour son dossier, et stratégiquement, à essayer de réunir un certain nombre de documents. Vous savez, moi, je vois ça dans mes propres dossiers où on a, lorsqu'on peut pas déposer une plainte pour des violences physiques, et on a ce que vous venez de me dire pour madame, c'est-à-dire qu'on justifie de rendez-vous chez un psy, on justifie d'un suivi chez tel ou tel spécialiste, et ce sont ces éléments-là qui sont mis en avant, puisque la violence psychologique peut être aussi dure et parfois pire qu'une violence physique. Donc oui, elle va sûrement basculer sur ce terrain-là. Mais voilà, elle a tout intérêt à le faire.
Sachant que ça fait que 9 mois qu'elle est là, je suis routier, je sors, il fait nuit, il rentre, il fait nuit. Alors, elle a juste pour vous dire, maître, elle n'a même pas eu le temps de me connaître. Hein. Alors, vu quand elle était au pays, je descendais tous les 2-3 mois pour la voir, je restais une semaine, 2 semaines. Elle n'a même pas eu le temps de me connaître,
juste pour vous dire. Hein. Bon, mais bon après évidemment il s'agit pas de généraliser, et puis on a aussi beaucoup de mariages qui se passent bien et on se marie pas que pour les papiers, mais malheureusement vous faites partie de ces entre guillemets statistiques, et parfois oui on se fait leurrer, alors c'est terrible quand on l'apprend, mais si ça peut vous rassurer autant que ça puisse être rassurant, c'est qu'on a quand même un paquet de situations qui ressemblent à la vôtre, et beaucoup de personnes, que ce soit monsieur ou madame, hein, d'ailleurs, hein. Beaucoup de personnes qui sont administrativement trompées, et on se rend compte que c'est un mariage que pour les papiers. Donc, c'est un coup pour soi, et après, je vous dis, juridiquement, bon, vous avez des portes qui sont ouvertes pour vous dire que madame pourra être sanctionnée par le juge aux affaires familiales, mais et surtout par la préfecture.
D'accord. Ok, ça marche très bien. Merci beaucoup, Matt. C'est gentil.
Merci à vous.
Merci, Nadir.
Bon courage, Nadir.
Merci, au revoir.
Allez, dans un instant, d'autres appels. Hein, si vous voulez poser vos questions à Maître Serran, profitez-en. 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Hein. En direct, vous serez là. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, Maître Serran est très inspiré par cette thématique du mariage. Hein.
Oui, alors...
Mais vous êtes très inspiré parce que vous êtes avocat, donc effectivement, vous avez tendance à récupérer les dossiers et vous voyez le côté noir des choses.
Ah, non, mais d'abord, quand on est avocat, effectivement, on voit que le côté noir des dossiers de cette nature ou d'autres. Enfin, moi, il y a un truc qui m'interroge, c'est-à-dire j'ai beaucoup de mal, sincèrement. Vous voyez, moi, je suis né sur le territoire français. Je me suis marié avec une personne qui est née sur le territoire
Madame
français.
Madame Serran, voilà. Qui nous écoute ce matin.
Madame Serran, qui effectivement si, nous
Madame,
écoute.
Madame Serran, on renouvelle toute cette joie qu'on a de savoir que vous nous écoutez ce matin.
C'est gentil. Mais j'ai du mal à comprendre. Vous voyez, l'histoire de ce type, elle est triste. J'ai même parfois des proches qui me disent, je vais au pays, je vais me marier. Je réponds toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ce pays qu'est la France? Des femmes qui, entre guillemets, ont été... certaines sont nées ici. Elles ont déjà cet état d'esprit, elles ne vont pas être comme ça, les yeux écarquillés, en disant, moi, ce pays est merveilleux, et puis le type avec qui je me suis marié est un sale con. On peut se marier avec quelqu'un du territoire français et divorcer, mais au moins, on n'aura pas ce doute-là. Donc des gens qui...
Car le doute qu'on le fait pour les papiers.
Mais bien sûr, c'est ouais, terrible. Ouais. Encore une fois, c'est terrible. Mais voilà, on peut pas l'écarter. Alors,
vous m'avez employé une expression tout à l'heure, projet de mariage, projet de papier.
Projet de mariage, projet de papier. C'est souvent comme ça que c'est perçu. Et c'est souvent comme ça que ça se termine. Vous voyez, l'intéressé nous dit, il attend
deux
ans.
Ça vous surprend pas, en fait.
Non, mais bien sûr que non. Le type, il attend deux ans pour le regroupement familial. Il faut savoir que les personnes, femmes ou hommes, hein, peu importe, hein, qui ont un projet de mariage en se disant, je vais arriver sur le territoire français et puis, je vais patienter deux ans parce que la procédure est longue, mais je mettrai quand même un orteil sur le territoire français, mais à la fin, je mettrai un coup de poignard à mon conjoint. La difficulté, il ne s'agit pas de généraliser.
Non, parce que c'est vrai que...
Non, après,
c'est une partie de la réalité. Il y a aussi des mariages d'amour.
Des vrais mariages d'amour. Mais statistiquement parlant, ça pose une difficulté. Et je dis, méfiez-vous de ça. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, puisque là, c'est un homme qui nous a appelé, mais on a des femmes qui sont aussi, entre guillemets, trompées de cette manière. J'ai toujours du mal. Et je vous dis, quand j'ai des proches qui me parlent de mariage et qui me disent, je vais au bled chercher une femme propre et sérieuse, je suis toujours surpris. Ça veut dire quoi, une femme propre et sérieuse? Les filles qui sont sur le territoire français, elles sont propres et sérieuses, hein, les gars. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher.
Ouais, mais si vous dites ça, vous allez passer pour un vieux con.
C'est exactement ça.
Alors que je ne dirais pas, Maître Serran, que vous êtes un vieux con. Moi, je ne me permettrai pas.
Je sais bien. On pourrait avoir l'idée que. Ouais. Voilà, mais pas vous. Bon, en tout cas, voilà, méfiez-vous, les gars, méfiez-vous, mesdames, de ne pas être leurrés parce que, je le redis, on peut toujours faire en sorte, vous pouvez toujours faire en sorte de sanctionner le méchant conjoint en lui retirant les papiers, mais ça prend d'abord, encore une fois, vous l'avez vu, il y a le divorce, après c'est une procédure devant les autorités préfectorales, tout ça est long, tout ça coûte des sous, la tranquillité, ça n'a pas de prix.
Comment vous le repérez? Est-ce qu'il y a un truc?
Bah, à partir du moment où, d'abord, quand c'est fait de manière pas intelligente, c'est-à-dire que on a parfois des gens qui débarquent chez nous en disant lundi j'ai eu mon titre de séjour, mercredi j'engage une procédure de divorce ou je quitte le domicile. Bon, quand on vient nous voir avant et qu'on nous dit, encore une fois, moi je reçois des mails parfois du pays hein, pour me dire écoutez je vais me marier, j'arrive sur le territoire français tel jour. En règle générale, quand je reçois ça, je me dis ça sent plutôt le mariage bidon. Mais en qualité d'avocat. Quitte à les conseiller dans le cadre d'un mariage bidon, je leur dis, quand vous vous mariez, ça sert à rien de montrer une impatience pour récupérer les papiers, ou quand vous avez les papiers, partez pas en courant. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout, de manière intelligente, sinon tout ce que vous avez fait va tomber à l'eau, vous allez être démasqué, et la préfecture, quand elle vous démasque une fois, elle vous fait plus de cadeaux. Donc ça se prépare tout ça.
Bien. Alors, c'est un vrai sujet, en tout cas, Maître Serran. Alors, on a Fatima qui nous appelle de Marseille. Fatima, vous êtes la bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour, Maître Serran.
Oui, bonjour, Fatima.
Voilà, je voudrais vous poser une question au sujet des jeunes frères handicapés.
Oui.
Ça fait à peu près 12 ans de ça. Il partait quand il y avait ma mère en vie. Elle vivait là-bas et il est allé voir ma mère. Et il s'est marié là-bas. Mais il ne sait pas ce que c'est le mariage. Il est handicapé mental à 90%. Il s'est marié avec une jeune fille qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que lui. Parce qu'elle voulait le mariage, lui, il ne savait pas. Ils n'ont pas voulu le marier nulle part. Il a fallu qu'ils aillent chez un notaire pour qu'il les marie. Elle, son but, c'était juste pour les papiers. Parce qu'une jeune fille, elle est très belle, elle est jeune. Et je veux dire, je vois pas l'intérêt de se marier avec quelqu'un qui est handicapé mental, qui sait pas ce que c'est que l'argent, il sait pas ce que c'est la sortie. Si on lui dit pas de se laver, il se lave pas. Si on lui dit pas de manger, il vient pas manger. Il est handicapé à 90% mental.
D'accord, mais alors, pardon de vous poser la question. Alors, pardon de vous poser la question, mais de ce que vous êtes en train de me décrire concernant votre frère. Qu'est-ce qui fait quand même que ce soit un mariage chez un notaire ou pas? Qu'est-ce qui fait quand même que ça a pu se faire? Puisque s'il n'est pas autonome, donc c'est la famille, c'est l'entourage qui s'occupe de cet homme quand même, non?
Oui, il a été voir ma mère. Ma mère, elle était non-voyante. Elle était en fin de vie quand elle est partie en Algérie. Elle était en fin de vie, elle voulait mourir là-bas. Donc elle était vraiment au lit.
J'entends bien, mais en dehors de votre maman. Il n'y avait personne pour dire « ça sent le coup fourré ».
Non, parce qu'on habite tous en France. Mes frères, mes sœurs, moi, on habite tous en France. Et lui, il est parti en vacances et elle s'est mariée, elle a mis le grappin dessus.
D'accord, bon.
Et maintenant, ce qu'elle cherche, il a un enfant. Voilà, je précise qu'il a un enfant. Il est né en 2008, un garçon. Et là, elle cherche par tous les moyens de venir en France depuis. Elle a dû essayer plusieurs fois. Et là, maintenant, elle essaie de demander un visa de touriste, je crois. Par les projets d'elle, j'ai appris qu'elle veut venir. Par contre, s'il vient ici, parce qu'il a été maltraité aussi, hein, des coups de gifle, lui donner des coups de gifle. Quand je le ramenais, j'allais le chercher, il m'appelait des fois, il pleurait, il me dit, viens me chercher. J'allais le chercher en Algérie, je le soignais ici, je le ramenais. Là, il est dans un centre d'handicapés.
Sur le territoire français? Sur le territoire français?
Oui, oui, oui.
D'accord.
Il est né en France. Il est sous tutelle.
Ouais.
Maintenant.
C'est, alors, le tuteur, c'est un membre de la famille ou c'est une institution?
C'était moi. J'étais jusqu'à maintenant, c'est moi. Mais ça fait un an à peu près, j'ai mis quelqu'un d'autre parce que je n'en pouvais plus. J'ai 70 ans et j'étais trop fatiguée.
D'accord. L'institution qui a pris la relève de la tutelle, oui. Est-ce que vous l'avez informé de la situation en disant que manifestement, oui, ce mariage est un mariage que pour des papiers?
Oui, 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 je l'ai informé, bon. je lui ai raconté toute l'histoire.
D'accord, bon, après c'est donc à cette institution, voilà, de faire le nécessaire, c'est-à-dire qu'ils vont se rapprocher alors soit des autorités consulaires, soit des autorités préfectorales pour dire, en tout cas pour lancer une alerte, pour dire attention, voilà la situation. Et donc si cette femme demande un visa, que ce soit un visa d'installation ou un visa en qualité de touriste, faut faire en sorte de pas lui accorder. C'est peu probable que la France accorde un visa dans ces circonstances-là, sincèrement. Déjà dans des dossiers plus tranquilles, plus calmes, la France est assez suspicieuse. Là, en l'occurrence, j'imagine qu'ils vont sentir le truc de loin. Donc c'est peu probable, sincèrement, qu'elle obtienne un quelconque visa. Hein.
Oui, oui, parce qu'elle n'a rien à voir avec lui. En plus, elle vit avec quelqu'un.
Enfin, ils ont un enfant commun quand même, quoi, non?
Ils ont un enfant.
Ouais. Votre frère, il est de quelle nationalité?
Française, parce qu'il est né en France.
Ouais, donc son enfant va en bénéficier. Donc elle pourrait, si elle se débrouille bien quand même, pouvoir mettre un pied sur le territoire français, alors pas directement par rapport à votre frère, donc par rapport à son mari, mais le fait d'avoir un enfant de nationalité française, évidemment, ça aide.
Ouais, ouais.
Donc elle pourrait quand même, voilà, contourner un peu le truc et finir par s'installer sur le territoire, hein.
Voilà, et ce serait une catastrophe pour lui, parce que lui, il aime beaucoup, c'est normal, il n'a jamais eu de femme, et il ne sait pas dire non, ni oui, ni rien, hein. Il ne gère pas ni l'argent, ni, rien du tout. Et même quand il était en Algérie, elle avait quelqu'un, lui, il dormait dans la cuisine, il dormait habillé, et elle avait quelqu'un avec elle.
Ouais, mais madame, après, encore une fois, vous voyez, c'est terrible ce que vous me dites. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce pauvre homme a été complètement manipulé. Maintenant, je comprends bien quand vous me dites, bon, mais au pays, il n'y avait personne pour ceci, pour cela. Il est quand même de nationalité française et je constate que les membres de la famille, directs ou indirects, ne sont pas intervenus au moment où il fallait intervenir. Je veux dire que cette femme l'a pas porté une nuit, elle l'a pas mis dans un camion.
C'est quand même marié, quoi. Ouais.
Voilà, donc le...
Ah non, non, pas dans un camion, mais c'est,
non,
ça,
mais...
ça, c'est plus facile. Parce
non,
que,
mais
lui,
madame, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que, voilà, oui. C'est pas... Bon, si vous m'aviez dit, tiens, ils se sont embrassés en cachette, j'aurais dit, bah ça, on peut pas le surveiller. On parle d'un mariage. Et a priori, et rarement, chez nous, avec des grands guillemets, le mariage se fait pas en cachette, en catimini. Donc, se réveiller trop tard, c'est quand même dommage. C'est toute la difficulté. Alors, c'est pas un reproche.
Et après, ils ont fait un enfant.
Ah non, mais c'est plus. Ça. Voilà, le mariage, enfant, ça fait, entre guillemets, ou ça commence à faire beaucoup. Et je vais vous dire d'abord pourquoi. Vous savez, les autorités préfectorales, on peut leur dire, écoutez, c'est un mariage bidon, madame s'est mariée et puis elle a abandonné monsieur. Quand il y a un enfant... Eh ben, la préfecture regarde ça quand même de manière un peu plus précise. Moi, à mon niveau, au sein de mon cabinet, sincèrement, j'ai peut-être un ou deux dossiers en 20 ans d'exercice où quelqu'un vous dit, j'ai fait un enfant, alors bon, ça a été entre guillemets un accident, ou j'ai fait un enfant, je vais être sûr d'avoir mes papiers, mais en règle générale, madame, quand on se marie que pour des papiers, on fait en sorte de pas avoir d'enfant. Hein. Et là, le fait qu'il y ait un enfant commun, évidemment, ça va fragiliser la situation et la position de votre frère et permettre à madame, par un biais détourné, demain, de venir sur le territoire français, éventuellement, de même d'être régularisée.
Oui, oui, parce que le jour de ce... Quand j'ai pris l'avion, j'ai su qu'ils allaient se marier, j'ai pris l'avion. Le jour que je suis arrivée en Algérie, c'est ce jour-là qu'ils se sont mariés.
L'enfant, à quel âge?
Il est de 2008, donc il a 11 ans
à peu près. Ouais, enfin, bon. Alors, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais si... Si madame se débrouille bien, si son avocat n'est pas mauvais, elle finira par être régularisée sur le territoire français, madame.
Oui, oui.
Bien sûr.
C'est ça, ben tant pis, voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est ça. Et la France, je trouve que quand même les droits, c'est la loi, elle est mal faite, monsieur.
Non, madame, la loi n'est pas mal faite. Ouais. Vous savez, il y a une autonomie chez les gens. Voilà, la loi n'est pas mal faite. La loi peut pas vous porter, vous prendre en charge du début jusqu'à la fin. Chacun d'entre nous, on a notre propre réflexion. La difficulté, c'est que la loi peut pas remplacer, pardon pour ce que je vais vous dire, la bêtise humaine, l'inactivité. Partir du moment où quelqu'un ne réagit pas, alors qu'il peut le faire, alors qu'il a les moyens de, la loi peut pas combler ça. Et heureusement, sinon ce serait, on appellerait ça une dictature. C'est-à-dire, je vais tout vous dicter. Bah, l'autonomie de l'être humain et la démocratie dans ce pays font que, et heureusement, la loi ne décide pas de tout. Donc, votre frère est dans une situation particulière. Alors, c'était au tuteur et vous l'étiez. Au tuteur institutionnel de prendre la relève, qu'on le veuille ou non, la vraie responsabilité, madame, c'est le ou la personne qui a exercé la tutelle. Quand on est tuteur, c'est ça. On est là pour protéger l'autre. Et on ne peut pas, quand on est placé sous tutelle, faire tel ou tel acte sans l'accord du tuteur.
Là, Maître Serran, vous avez sorti le bazooka, là.
Non, mais c'est...
Vous avez sorti le bazooka, Maître Serran.
C'est vrai, parce que cette femme, je comprends sa douleur, mais je ne veux pas lui laisser cet espoir-là. L'épouse de votre frère s'est, entre guillemets, pardon d'utiliser le terme, bien débrouillée. Maintenant, madame, elle n'était pas obligée de faire un enfant avec lui. À partir du moment où elle fait un enfant avec lui... Vous voyez, je peux pas juste me dire, tiens, elle s'est mariée que pour les papiers, il y a quand même un enfant avec votre frère. Ça change la donne, hein. Ça change la donne, considérablement.
Vous savez, maître, ils s'en foutent des enfants. Du moment qu'elle a ses papiers, elle voulait faire un enfant parce qu'elle savait...
Bon, après, voilà, vous savez, on voit de tout. Moi, je vous réponds par rapport à ma propre expérience. Oui. Sincèrement, dans 99,9% des dossiers, quand il y a un mariage que pour les papiers, que ce soit monsieur ou madame...
Il n'y a pas d'enfant.
Non, on évite de faire des enfants, hein, franchement. Voilà. Ouais, et là, au moment où on se parle, le mariage existe toujours.
Oui, oui.
Ils sont toujours mariés, oui, aujourd'hui.
Oui, oui,
ils sont toujours mariés, techniquement.
Bon,
est-ce qu'il peut divorcer en France, lui?
Bah non, si madame est sur le au pays, donc oui. Il faudra qu'il fasse la procédure de là-bas.
Oui.
Bah oui, bien sûr. Non, mais il y a des règles de droit international à respecter, heureusement.
Oui.
Après, s'il était placé sous tutelle au moment du mariage, il n'y a rien qui interdirait de demander une procédure d'annulation de mariage. Mais pareil, ça se fait au pays, donc je ne suis pas suffisamment aguerri pour vous dire est-ce que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent au pays en France. Mais là, madame, on ne peut pas en vouloir qu'à cette femme qui aurait utilisé votre frère. C'est aussi l'entourage de votre frère qui n'a pas été diligent en temps et en heure. Et puis le gamin, il a 11 ans, vous voyez. Bon, moi je veux bien, mais il aurait peut-être fallu se réveiller un peu plus tôt, quoi. Donc je crois que c'est cette femme finira pour obtenir ses papiers.
Hein. Bien. Fatima, vous pouvez poursuivre la conversation parce que ça m'embête un petit peu que vous laissiez Fatima comme ça, Maître Serhan. Redonnez votre.
Bien sûr.
Fatima, hein, c'est juste la Maître Serhan est un peu.
Bougon.
Ouais, bougon. Ouais, mais ça lui ressemble. Ça fait partie de son charme. Redonnez votre numéro de téléphone, Maître Serhan.
Bien sûr. Bah, vous avez bien compris que, enfin, on peut.
Vous rappeler. Vous rappelez aux responsabilités.
Voilà.
Bien.
Donc, vous pouvez m'appeler au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Bien, on fait un gros bisou, Fatima. Mais c'est une vraie histoire. Mais aussi, la vie est faite de ces histoires.
Ouais,
parfois. Compliquées, tragiques. Mais c'est ça aussi la réalité du droit. C'est de l'humain aussi. Allez, Maître Serhan, vous êtes là vendredi prochain,
hein,
avec beaucoup de plaisir. Vous allez nous manquer toute cette semaine. Dans un instant, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui est là, puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant.